Et moi, je trouve que c'est sympa parce que il y a une ligne, le Valaisan a une ligne et puis il défend son truc et puis voilà, il se laissera pas influencer par tous les courants qui passent.
D'accord.
Je vois ça comme ça.
Ah, c'est bien, d'accord. Alors, maintenant, peut-être qu'on peut évoquer un petit peu le monde politique de ce Beauvallée. On sait qu'il y a l'hégémonie PDC, alors peut-être tu peux en dire deux, trois mots. Qu'est-ce que tu penses de la répartition haut et bas, ou est-ce que tu penses que l'état actuel du monde politique valaisan, est-ce qu'il te convient, la répartition des partis?
Donc en Valais en général, bon, on remarque que le Haut-Valais a quand même une tendance très fortement ancrée PDC, donc depuis fort longtemps, et je crois que c'est pas encore prêt de changer vraiment. Bon, certes, il y a les socialistes qui suivent un petit peu derrière, mais le PDC a beaucoup, beaucoup de poids dans le Haut-Valais, hein. Et le Haut-Valaisan, je crois que a un caractère à ne pas changer rapidement les choses pour suivre une nouveauté. Je vois ça plutôt un peu comme ça. Ils sont très fidèle à des convictions, à des idées depuis fort longtemps. Dans le Valais central et dans le Bas-Valais, par contre, ça commence un petit peu à remuer. Hein, les grands partis, et dont le PDC, hein, on a vu aux dernières élections, perdent un petit peu de poids face à des nouveaux partis qui commencent à arriver avec des nouvelles idées et qui peut-être répondent gentiment à une tranche de population qui est un peu déçue des grands partis. Moi, je vois ça comme ça parce que, ouais, sinon ces nouveaux partis, ils auraient peut-être pas autant de chance. Mais le Valais reste quand même pas mal PDC encore, à mon avis, un petit peu, oui, conservateur dans tous les domaines, politiquement et aussi dans d'autres domaines, comme par exemple si je pense à la religion, le Valais est quand même très traditionnaliste, très conservateur. Je pense qu'il n'aime pas changer les choses et il lui manque parfois peut-être au Valaisan cette ouverture d'esprit face à ce qui est nouveau mais qui peut peut-être être mieux. Là, je crois que aussi politiquement, le Valaisan est parfois un peu. Oui, il s'accroche un petit peu aux idées qu'il a, à ce qui est dans le passé, quoi.
D'accord, alors on a parlé un petit peu d'un Valais conservateur, mais j'aimerais poser une question. Est-ce que tu ne penses pas que l'élection du jeune Matthias Reynard, le socialiste de 24 ans, elle n'est pas un peu là pour casser un petit peu cette image de vieux chiant de PDC, par exemple, si je peux m'exprimer ainsi? Est-ce que tu penses que ce n'est pas une révolution un petit peu que le canton, il est voté une personne comme ça? Enfin, c'est quand même pas traditionnel, justement.
Non, ça je suis d'accord, c'est effectivement un peu une surprise, mais la surprise arrive dans le Bas-Valais, pas dans le Haut-Valais, donc c'est déjà une demi-surprise. Mais effectivement, alors j'aurais jamais pensé qu'une personne de 24 ans puisse être élue au Conseil national. Franchement, je doute aucunement de ses qualités politiques, mais pour moi, à mon avis, là, le pas qu'il a franchi est un peu trop grand d'un coup. Je trouve que, comme dans tous les domaines, dans toutes les professions, il faut gravir les échelons et pas sauter des étages. C'est mon avis personnel, mais je pense que ça va pas être simple pour lui parce que déjà, il est jeune, il n'a pas une expérience politique énorme. Et je crois qu'à Berne, il n'y a pas que des gentils-gentils. Hein, il faut aussi un peu montrer les dents et je ne sais pas s'il va tenir vraiment le coup dans cette pression politique. Mais pourquoi pas? Mais moi, je dois dire, j'étais très surprise et je ne sais pas si c'est une bonne chose. L'avenir nous le dira. Mais il a du courage, le jeune, absolument. Le fait de s'être inscrit sur la liste, il devait quand même s'attendre à ce qu'il y ait la probabilité qu'il soit élu. Mais oui, je crois qu'il. Oui, c'est une surprise. Non, le Valais change, le Valais bouge. Je ne dis pas que ça change pas du tout. Et là, j'avais plutôt l'impression que la réaction des électeurs était vraiment de secouer le sac comme au loto, on secoue à fond pour qu'il y ait des choses qui changent, mais voilà, je ne suis pas vraiment emballée.
D'accord, alors on évoque quand même le cas d'un jeune politicien. Alors je poserai une dernière question pour clore le débat politique. Qu'est-ce tu penses de... Est-ce que proposer des listes de jeunes a du sens dans le monde politique, dans le cadre d'une élection au Conseil national? Est-ce que ces listes de jeunes, est-ce qu'elles sont pas inutiles en quelque sorte?
Alors moi, je pense que ces listes n'ont pas un grand sens. Je ne critique pas les personnes, mais je trouve que les jeunes, c'est très bien que les jeunes s'intéressent à la politique et veulent en faire, Mais pour moi, leur place serait dans un conseil communal avant, un conseil général, donc dans le
Un
cadre d'une, un
exécutif.
exécutif, dans le cadre d'une commune, oui, tout à fait. Mais pas à 22, 24 ans. Pour moi, je trouve que la place du jeune n'est pas à Berne. D'ailleurs, pas non plus à 75 ans, hein, si je peux me permettre. Comme il y a un temps pour tout, même en politique, il y a un temps pour tout. Donc, moi, à Berne, je vois plutôt des gens entre 30 et 65, 70 grand maximum. Non, ça n'a pas beaucoup de sens. Et ce que je trouve dommage, c'est que, d'accord, ces jeunes jouent le jeu, ils sont enthousiastes, ils ont de l'énergie, ils ont des idées, tout ça, ce qui est bien. Mais franchement, pas à Berne. Pas à cet âge-là et pas à Berne. Je comprends pas les partis qui les mettent sur les listes. Non.
D'accord. Donc voilà, on a terminé ce sujet politique. Je propose maintenant d'aborder un de tes loisirs, c'est-à-dire le voyage, aussi le voyage de visite, visiter des lieux et des cultures. Alors on pourrait prendre l'exemple des châteaux de la Loire que vous avez visités quand même par deux fois. Est-ce que tu peux un peu parler un peu de l'expérience et de ce que tu as ressenti dans ces deux séjours? Est-ce que quelles sont un peu les impressions face au à ces chefs-d'œuvre d'architecture.
Oui, alors effectivement, le premier voyage en 2005, là, on a visité les plus grands classiques, vraiment les châteaux les plus connus des châteaux de la Loire, parce qu'il y en a énormément, mais il y a quelques-uns qui sont plus connus que d'autres. Mais c'est vrai que c'est magnifique d'entrer dans ces lieux, de s'imprégner de ce qui s'est passé là, de ce que le roi de France a vécu dans ces lieux et les personnes qui étaient avec lui à la cour. Hein, on sait qu'il n'était jamais seul, mais c'est magnifique. Déjà au niveau de la construction, de l'emplacement, le domaine qui entoure le château, mais c'est splendide. Et puis alors, on a vu plusieurs châteaux qui étaient meublés, mais magnifiquement, vraiment, mais superbes. Et le plus grand, qui est le château de Chambord, franchement, il est, oui, c'est époustouflant quand on arrive là-dedans, mais waouh, chaque pièce a sa cheminée, il y a un grand escalier qui tourne en haut, en bas, c'est magnifique au niveau architectural. Bon, seul bémol, impossible à chauffer, forcément. Les grands volumes, tout ça, c'était peut-être un peu moins pratique. Mais c'est vrai que c'est super, c'est splendide. Alors de visiter ces châteaux, oui, ça nous amène à un bout de l'histoire de la France et c'est tellement passionnant cette histoire des rois de France à différentes époques et de savoir tout, un peu les intrigues qu'il y a eu, la vie des gens. Ouais, c'est vraiment chouette. Moi, j'ai beaucoup apprécié, j'ai aussi aimé le deuxième voyage, la deuxième partie des châteaux qu'on a pu voir, qui sont peut-être un peu moins connus, qui sont en partie en main de privé et pas en main de l'État de France. Mais tout aussi beau. Alors là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait chaque fois une partie qui était habitée par le propriétaire actuel. Et ces châteaux-là, en main de privé, étaient peut-être meublés encore un peu plus. Comment je pourrais dire? Les meubles étaient encore presque mieux conservés. Il y avait parfois une exposition également des vêtements des gens de l'époque. Mais c'était vraiment magnifique. On se croyait vraiment vivre à l'époque-là. Oui, c'est splendide, quoi. Bien sûr, il n'y a pas eu que des belles choses, hein. On sait que l'histoire, elle n'a pas toujours été magnifique, mais non, c'était superbe.
D'accord, alors on a bien compris ce mélange entre châteaux célèbres et domaines un peu plus méconnus. On pourrait maintenant aussi se demander un peu quel est. Je te posais la question en fait, quel serait maintenant l'endroit comme pays au niveau culturel que tu aimerais aller visiter par exemple après? Est-ce que ce serait la France encore ou bien monter un peu plus au nord? Peut-être les royautés nordiques ou je sais pas.
Alors au niveau culturel, il faut que je réfléchisse où c'est que j'aimerais aller.
Vienne peut-être.
Ah oui, alors le château de Schönbrunn à Vienne, oui, tout à fait. Oui, alors ça, à Vienne, ça me plairait d'aller visiter, tout à fait. Parce qu'on a une partie de la famille qui connaît là-bas la région et qui m'a parlé que c'était vraiment magnifique. Certes, c'est une époque plus tard, mais bon, apparemment, ce château, il est splendide et il est encore meublé très richement. Et puis un endroit que je dois encore absolument aller voir, c'est le château de Versailles à Paris, parce que celui-là, je ne l'ai encore pas vu et j'aimerais bien un jour le voir aussi. Mais l'Autriche, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir au niveau architectural, historique, oui, ça me plairait énormément. Ouais.
Peut-être comme tu aimes spécialement Catherine de